Vous écoutez On lit pour vous.
Une crise sociétale qui touche les femmes en plein cœur. Un texte de Rachel Deschamps paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir. Je n'en peux plus de voir ce gouvernement profiter de notre sens du devoir et de notre bienveillance. Nous vivons une crise sociétale qui touche en plein cœur la présence et le rôle des femmes québécoises dans toute leur diversité. Je vais commencer ce texte en parlant de nos infirmières, mais vous verrez que j'en élargirai la portée. Notre système de santé hospitalier repose bien sûr sur ces médecins et sur leur sens du devoir, mais il repose peut-être encore davantage sur ces infirmières. On le voit très clairement avec les difficultés que connaissent plusieurs établissements à faire fonctionner leurs salles d'opération. Dans mon hôpital, Santé Québec a demandé à nos gestionnaires de geler ou de réduire fortement l'affichage de postes d'infirmières et de diminuer le recours au temps supplémentaire obligatoire, TSO. En effet, Radio-Canada rapportait en septembre une baisse de 5,9 millions d'heures travaillées dans le réseau. C'est une drôle de réussite quand, sur le terrain, on ne voit que des besoins. On nous dit cependant que le nombre d'opérations a augmenté sans qu'on sache si cela inclut l'utilisation du privé ou simplement qu'on a favorisé des interventions plus courtes, électives, avec un délai d'attente de plus d'un an. Concrètement, le recours au TSO a diminué, mais sans remplacement. Les infirmières ont un ratio plus élevé de patients et les salles d'opération ferment à 16 heures, faute de personnel. Je travaille aux soins intensifs. Les gestionnaires, sous la supervision de Santé Québec, demandent aux chefs d'unité de soins d'optimiser en tout temps le ratio infirmière-patient. Même si, sur le terrain, nous voyons qu'il faudrait créer de nouveaux postes, on nous les refuse parce que le ratio n'est pas jugé assez performant. Cependant, aux soins intensifs, on ne peut pas gérer une unité comme une chaîne de production. Le taux d'occupation varie et notre performance devrait se mesurer à notre capacité d'accueillir un patient gravement malade à très court préavis. On a oublié le patient dans cette façon de procéder. Je tiens à le dire, notre équipe d'infirmières, d'inhalothérapeutes, de commis, de préposés et de personnel d'entretien est exceptionnelle. Mais pour bien faire notre travail, il faut être assez nombreux. En ce moment, le moral est bas. Le stress vient surtout de l'extérieur de l'unité. Chez certaines infirmières d'expérience, cela mène à des départs précoces. On a éteint leur flamme petit à petit. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le projet de loi 101, adopté 2 jours avant la loi 2. C'est une loi omnibus qui, tout en corrigeant certaines choses, affaiblit la santé et la sécurité au travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, là où les risques psychosociaux, la surcharge et la violence sont élevés et où l'employeur est justement l'État. En effet, le projet de loi crée un chapitre spécial pour certains établissements des secteurs de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux. Cela s'applique à Santé Québec, aux établissements privés conventionnés, aux établissements de santé regroupés, à certains centres de services scolaires, donc au secteur de l'éducation. Les centrales syndicales, CSN, CSQ, FTQ, CSD, reprochent au gouvernement de créer, par cette loi, des règles moins exigeantes pour la santé, les services sociaux et l'éducation, alors qu'il s'agit de secteurs majoritairement féminins. Elles estiment que le gouvernement contourne sa propre loi de modernisation de la santé et de la sécurité au travail. Dans la loi, le gouvernement justifie ce choix par le fait que les réseaux de la santé et de l'éducation sont hyper centralisés. C'est donc présenté comme une difficulté administrative. Dans des réseaux si vastes, on standardise et on limite la négociation au cas par cas. Le projet de loi prévoit d'ailleurs que ce chapitre cessera de prendre effet à la date que le gouvernement déterminera et qu'un rapport devra être déposé au plus tard le 1er octobre 2029 pour décider si ce régime spécial est maintenu ou modifié. La justification implicite est donc qu'il s'agit d'un régime transitoire, le temps que ses réseaux s'adaptent. Je cite Jennifer Macaroni, députée de l'opposition, lors de l'adoption du projet de loi fin octobre. La mise en œuvre d'un régime de prévention affaibli et limité pour les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux publics, qui sont pourtant des milieux fortement à prédominance féminine, 80% dans le réseau de la santé, 75% dans le réseau de l'éducation, est vraiment un recul majeur et discriminatoire. Je dois exprimer ma déception que nous n'ayons pas pu entendre la FIC, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Mon collègue avait déposé une motion préliminaire pour faire entendre ce groupe, qui représente quand même 80% des femmes dans le marché du travail du réseau de la santé. C'est un projet de loi qui aura un impact majeur sur la vie des femmes. Alors, leur témoignage aurait été pertinent, percutant et nécessaire pour bien comprendre l'impact sur les réseaux et sur les femmes. Cela veut dire que les réseaux privés vont avoir plus de protection en matière de santé et de sécurité que les réseaux publics, où le gouvernement est quand même l'employeur et où nous devrions donner l'exemple. Je sais que cela ne fera pas l'unanimité, mais cette loi me fait penser à la loi 21, adoptée en 2019, qui limite le port du voile pour certaines personnes travaillant pour l'État. Ici aussi, on s'attaque à des femmes bien éduquées et pleinement participantes à notre société au nom d'une certaine conception de la laïcité. Or, une vraie société laïque devrait intégrer la pluralité religieuse et ne poser des limites que lorsque des pratiques vont réellement à l'encontre de nos convictions collectives, pas simplement parce qu'un symbole dérange. Maintenant que François Legault a dévoilé son plan économique, la logique me semble assez claire. Moins d'argent et plus de contrôle sur nos systèmes publics majoritairement féminins, santé et éducation, plus d'argent et plus de liberté pour les hommes d'affaires. Son projet de loi 101 sur la santé et la sécurité au travail, qui exclut les travailleurs de la santé et de l'éducation, va également protéger le privé. En santé, cela facilitera l'appropriation des pastilles vertes et des chirurgies électives par le secteur privé. Je ne crois pas que cela ressemble au Québec dont nous avons osé rêver. Le premier ministre Legault est notre Trump québécois, celui qui nous isole dans notre économie en pointant les immigrants, les femmes et les élites, experts et médecins, comme étant le problème. Je n'en peux plus de devoir profiter du sens du devoir et de la bienveillance de toutes les femmes travaillant dans nos services publics. Ce que nous vivons actuellement au Québec n'est donc pas seulement un mépris à l'égard des médecins, c'est un mépris pour l'ensemble de notre réseau public, composé majoritairement de femmes, dont beaucoup prennent soin de nos enfants, c'est-à-dire de notre avenir collectif. C'était une crise sociétale qui touche les femmes en plein cœur. Un texte de Rachel Deschamps, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir.
L'heure du conte, vraiment, pour tous. Un texte de Véronique Larocque, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Léa, une feuille multicolore, s'envole au vent et se retrouve devant un gentil serpent. En regardant le reptile ondulé, elle se dit « Ses mouvements sont comme des mots que je peux voir ». Cette scène est tirée de Léa, la feuille aux mille couleurs, une histoire imaginée pour les enfants sourds ou malentendants, par l'autrice sourde Chantal Deguire. Les aventures de la petite feuille ne sont pas racontées dans les pages d'un livre. Narrées en langue des signes québécoise, LSQ, elles prennent vie sur ordinateur ou sur tablette. En effet, Léa, la feuille aux mille couleurs, est l'une des trois histoires interactives lancées il y a quelques mois par Eversa, organisation qui contribue à l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes dans la société. Il s'agit de la première initiative du genre au Canada, affirme en LSQ Caroline Hould, coordonnatrice des services de consultation chez Eversa. Mettre de l'avant la culture sourde. Il existait déjà des vidéos de livres écrits en français, puis traduits en lescu, explique-t-elle, avec l'aide d'une interprète. Inspirée par les façons de faire de l'Université américaine Gallaudet, institution importante pour la communauté sourde, l'équipe d'Eversa a créé ces histoires interactives dans l'ordre inverse. Le texte a d'abord été développé en lescu, pour ensuite être traduit en français. Dans l'application, chaque page virtuelle présente ces deux versions. Il y a des subtilités culturelles à travers les histoires, dit Caroline Hould. Par exemple, il y a des expressions en LSQ qui sont propres à la langue des signes. Parfois, il n'y a pas d'équivalent écrit en français. Pour illustrer son propos, elle ouvre puis ferme ses paumes. On va utiliser ce signe-là quand on veut exprimer qu'on est impressionné, indique-t-elle, en observant que ce geste rappelle des yeux qui s'écarquillent. Apprendre la LSQ tôt. À travers ce projet, Eversa souhaite permettre aux jeunes sourds ou malentendants d'entrer en contact dès l'enfance avec la LSQ. Car non, ce n'est pas nécessairement la première langue qu'ils apprennent, dit Caroline Hould. Cela s'explique par plusieurs facteurs, à commencer par le fait que la très grande majorité des enfants sourds, environ 90 % naissent dans des familles entendantes. Si je suis une personne entendante qui ne connaît pas les signes, qui ne connaît pas la communauté sourde ou l'histoire des sourds, comment je peux transmettre ça à mon enfant? Il faut que moi, je fasse un effort en tant que parent pour apprendre la langue des signes et m'impliquer dans la communauté. C'est sûr que je préfère enseigner le français à mon enfant, analyse Caroline Hould. Souvent, les enfants vont apprendre le français en premier et ensuite la LSQ sur le tard, lorsqu'ils sont adolescents ou jeunes adultes, observe-t-elle. Or, des études démontrent qu'il est plus facile pour les enfants sourds d'apprendre d'abord la LSQ, car cette langue visuelle est pour eux plus naturelle qu'une langue sonore. Deux visions. Pour développer ces histoires interactives, Eversa a pu compter sur le soutien financier du gouvernement de l'Ontario, qui reconnaît la langue des signes québécoise et l'American Sign Language, ASL, comme langue d'enseignement. Ce n'est pas le cas au Québec, bien qu'il existe des écoles spécialisées pour les enfants sourds. Aux yeux de Caroline Hould, deux visions de la surdité s'opposent. L'une, plus médicale, voit la surdité comme étant quelque chose à réparer. On va, par exemple, procéder à une opération d'implant cochléaire. Les parents pensent souvent que c'est une solution magique, que leur enfant va devenir entendant. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, affirme-t-elle. Puis, il y a une vision plus socioculturelle de la surdité, qui est basée sur l'apprentissage de la langue des signes québécoise, explique celle qui croit en l'importance de défendre sa langue. Certains membres de la communauté sourde utilisent le terme « sourd » avec une majuscule pour mettre l'accent sur l'identité culturelle et linguistique des personnes dont la langue première est la langue des signes. Trois questions pour démystifier la réalité des personnes sourdes. Caroline Hould, coordonnatrice des services de consultation chez Eversa, organisation qui contribue à l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes dans la société, nous répond. Pourquoi les personnes qui s'expriment en langue des signes font-elles beaucoup d'expressions avec leur visage? Dans la langue des signes, il y a vraiment une richesse d'expressions faciales. On peut avoir un seul signe auquel on va ajouter énormément d'informations avec nos expressions faciales et corporelles, explique Caroline Hould. Par exemple, un froncement de sourcils peut transformer une phrase simple en phrase interrogative. Les expressions faciales et corporelles sont une part très importante de la structure grammaticale de la langue des signes québécoise. Est-ce que toutes les personnes sourdes lisent sur les lèvres? Je pense qu'il y a un mythe par rapport à la lecture labiale, comme quoi c'est quelque chose de très facile. Ça demande énormément d'efforts et de concentration. Il y a beaucoup de déductions qui entrent en ligne de compte aussi, répond Caroline Hould. Quelle est la meilleure façon d'entrer en contact avec une personne sourde? Il y a vraiment une diversité de façons, parce que les personnes sourdes ont une variété de préférences sur la façon dont elles veulent s'exprimer. Elles peuvent vouloir s'exprimer par signe avec la LSQ ou oralement, ou elles vont préférer embaucher un interprète ou utiliser l'écriture. Idéalement, il faut demander à la personne sourde quelle est sa préférence, suggère Caroline Hould. C'était L'heure du conte, vraiment pour tous. Un texte de Véronique Larocque, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
La montée de l'itinérance fait craindre le pire à Rouyn-Noranda. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 10 novembre 2025 dans Le Devoir. Problème traditionnellement associé aux grands centres urbains, l'itinérance se régionalise de plus en plus. À Rouyn-Noranda, l'apparition récente de ce phénomène met une pression énorme sur les ressources d'urgence et cause des tensions avec les commerçants du centre-ville. À l'approche de l'hiver abitibien, les services d'hébergement craignent de ne pas être en mesure de répondre à la demande faute de moyens. Citation: si on recule de 3 ou 4 ans, on voyait peut-être une ou deux personnes qui étaient à risque d'itinérance, une ou deux personnes dont tout le monde connaissait le nom. Mais maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Fin de citation, explique Marie-Ève Giroux, directrice générale de la Maison du Soleil Levant, principal centre d'hébergement pour sans-abri de Rouyn-Noranda. Phénomène peu visible de longue date, l'itinérance est soudainement devenue plus importante dans la ville de 43 000 habitants lors des dernières années, à la faveur de la crise du logement et de la hausse du coût de la vie. La croissance des activités de Maison du Soleil Levant en témoigne. Pour répondre à une demande exponentielle, l'organisme a ouvert en 2024 un refuge de nuit de 20 lits au centre-ville, puis un centre de jour ou halte chaleur qui peut accueillir quotidiennement une cinquantaine de personnes. L'organisation communautaire offre également une quinzaine de lits en hébergement à court et moyen terme et 8 logements transitoires. Malgré tout, les besoins restent énormes dans la ville du Cuivre. Citation: c'est épeurant, dit Marie-Ève Giroux en parlant de l'hiver à venir. Ça nous fait peur. C'est sûr, on n'a pas les ressources pour aider tout le monde. Fin de citation. L'été dernier, la Maison du Soleil Levant, la ville et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et différents partenaires locaux ont adopté un plan estival de lutte contre l'itinérance. Les mêmes intervenants sont présentement en train d'élaborer un plan d'action annuel. Citation: on ne laissera personne mourir dehors, souligne Marie-Ève Giroux. C'est sûr qu'on va accueillir tous les gens qui vont venir, mais ça se peut qu'on soit rendu à offrir des chaises et des couvertures. On n'a pas la capacité en ressources humaines et physiques pour accueillir tous les besoins qu'il y aura cet hiver. Fin de citation. L'été dernier, le centre de jour Levant a été fermé du 15 juin au 15 septembre par manque de moyens. Citation: on a pris cette décision pour pouvoir être en activité l'hiver, explique Marie-Ève Giroux. Citation: on ne laissera personne mourir dehors. Marie-Ève Giroux. Demande de soutien. Récemment élu sans opposition, le nouveau maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapadeau, réclame, citation, un soutien accru de la part du gouvernement du Québec, fin de citation, au milieu communautaire pour juguler la crise. Citation: on ne leur donne pas les ressources nécessaires pour qu'ils puissent remplir leur mission, a fait valoir le nouveau magistrat, qui fut député du Parti québécois dans la région de 2012 à 2014. Les organismes sont là sur le terrain, ils répondent aux besoins dans la mesure du possible, mais s'ils n'ont pas les ressources nécessaires, ils ne pourront pas y arriver. Fin de citation. Du côté du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, important bailleur de fonds du milieu communautaire, on estime que la situation est préoccupante, mais qu'elle est prise en charge par l'ensemble des partenaires, dit Christina Sayer, directrice des programmes de santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux. Citation: tous les ans, on se demande si on va avoir ce qu'il faut. Puis, bon an, mal an, chaque année, on réussit à répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Ce serait mentir de dire que ce n'est pas un enjeu de tous les jours pour le milieu communautaire, mais au sein du réseau de la santé, on s'est positionné pour pouvoir les accompagner et les soutenir, affirme-t-elle en entrevue, fin de citation. Le CIS a notamment mis en place des cliniques médicales et psychiatriques mobiles, accessibles directement dans les locaux de la Maison du Soleil Levant, en plus d'assumer un rôle de coordination entre les différentes ressources d'aide et les acteurs locaux, comme la Ville, la Sûreté du Québec et la Société de développement commercial du centre-ville. Cohabitation difficile. La présence accrue de personnes itinérantes au centre-ville, là où se trouve la majorité des ressources qui leur sont destinées, ne va pas sans créer de tensions avec les commerçants et les habitants. Certains ont notamment remis en question le choix d'installer le refuge d'urgence au centre-ville, invoquant des problèmes de cohabitation. Selon des témoignages recueillis par Le Devoir, il n'est pas rare que des personnes itinérantes se réfugient à la bibliothèque ou utilisent des installations municipales pour se laver. Citation, comme tous les citoyens, les personnes itinérantes ont des droits et des responsabilités et elles sont les bienvenues dans les installations de la ville, affirme Gilles Chapadeau, entré en fonction le 3 octobre. On s'attend à ce qu'elles fassent preuve de civisme, mais évidemment, on s'en va vers la période hivernale, alors elles ont besoin de lieux pour se réchauffer. On comprend tout à fait ça. On ne veut pas laisser les gens à la rue comme ça. Fin de citation. Pour faire face à la crise, la Ville a d'ailleurs mis en place pour ses employés un programme de formation et de sensibilisation à l'itinérance. Selon Marie-Ève Giroux, les tensions qui ont surgi après l'ouverture du refuge en 2024 vont en s'atténuant. Malgré tout, citation, dans une région qui est riche comme la nôtre, c'est difficile de voir quelqu'un en situation d'itinérance ou même en situation de pauvreté. C'est difficile pour les gens de voir que ça existe dans notre ville. Ça dérange, estime-t-elle. Je pense que les gens vont devoir s'y habituer parce que malheureusement, l'itinérance à Rouyn-Noranda, ce n'est pas prêt de disparaître. Fin de citation. Ce reportage bénéficie du soutien de l'Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada. C'était « La montée de l'itinérance fait craindre le pire à Rouyn-Noranda », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 10 novembre 2025 dans Le Devoir.
Un club de lecture pour résister à la censure. Un texte d'Antoine Martin, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Miami. Dans une petite salle à l'arrière de la librairie indépendante Books & Books, une dizaine de chaises forment un cercle. Les conversations montent doucement et les livres commencent à circuler. Au centre, une adolescente de 17 ans mène la discussion. Elle s'appelle Iris Mogul et elle a décidé de faire de la lecture un acte de résistance. À l'origine, il y a un livre, La parabole du semeur, un roman de science-fiction d'Octavia Butler, publié en 1993, que découvre Iris Mogul à l'été 2023. L'histoire, qui suit une adolescente noire dans une Amérique ravagée par les crises climatiques et économiques, est considérée comme provocatrice par certaines autorités scolaires. Le livre a même été retiré de plusieurs bibliothèques publiques et universitaires en Floride. C'est en lisant ce livre que je me suis dit « Pourquoi ne pas créer un club de lecture autour des œuvres bannies ?» raconte la jeune femme rencontrée à Miami. J'avais envie de faire partager ces textes qui dérangent, de comprendre pourquoi ils dérangent et de rencontrer d'autres personnes prêtes à en discuter. En 2023, plus de 10 000 interdictions de livres ont été signalées au pays, un record depuis le début du suivi à la rentrée scolaire 2021. Ces dernières années, la Floride est devenue l'épicentre américain de la censure des livres. Selon l'organisation PEN America, l'État arrive en tête du classement national avec 4561 livres bannis dans les écoles et bibliothèques publiques sur 10 000 titres interdits dans le pays. La majorité de ces œuvres abordent des thèmes liés à la race, aux inégalités sociales et aux identités LGBTQ+. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, figure montante du camp conservateur, a multiplié les réformes visant à protéger les élèves contre des contenus jugés inappropriés. sous couvert de donner plus de pouvoir aux parents, ces lois ouvrent la voie à la suppression massive d'ouvrages, parfois signalés par une simple plainte. C'est une manière de censurer des idées qui vont à l'encontre d'une vision très conservatrice, parfois même autoritaire, rappelle Iris Mogul. À ses yeux, ce phénomène ne touche pas seulement les rayons des bibliothèques, mais redessine aussi en profondeur le rapport des jeunes Floridiens à l'éducation, à l'histoire et à la diversité. Des espaces de parole. Pour mener son projet, Iris Mogul n'a pas choisi n'importe quel lieu. Books and Books est la librairie indépendante la plus importante de Miami, connue pour son engagement culturel et sa programmation littéraire foisonnante. Le groupe se réunit le dernier jeudi de chaque mois. La petite communauté s'est consolidée avec une dizaine de fidèles, rejoints par de nouveaux visages au fil du bouche à oreille et des publications sur les réseaux sociaux. Au départ, Iris imaginait un cercle de jeunes lecteurs. Mais rapidement, un ancien libraire, des retraités ou encore des enseignants ont rejoint le club. « Je suis la plus jeune, mais j'adore ça », dit-elle en riant. Le récit de Camille, participante portoricaine de 60 ans, illustre à quel point ces réunions ne sont pas de simples clubs de lecture, mais des espaces de parole où s'exprime l'inquiétude de voir disparaître des pans entiers de culture et d'histoire sous la pression politique. Au vu de la tournure que prend la Floride, en devenant un épicentre des idées d'extrême droite, je voulais absolument trouver une communauté de gens qui partagent mes idées pour parler de sujets importants pour quiconque se soucie de l'humanité, dit-elle. C'est maintenant ma 6e réunion. Au début, je ne savais pas que la personne qui gérait ce groupe était aussi jeune. J'ai vraiment été impressionnée par son leadership. Iris Mogul voit une forme de militantisme, certes modeste, mais nécessaire dans ses réunions. Lire un livre banni, affirme-t-elle, c'est aussi résister. Je refuse qu'on nous dicte ce qu'on a le droit de penser ou d'apprendre. La jeune femme observe aussi de près ce qui se passe dans son université, la Florida International University, FIU, où certains cours ont été supprimés, notamment ceux consacrés à la culture noire populaire. On prive les étudiants d'outils pour comprendre la société et ses tensions. Malgré ce climat, l'ambiance au club reste chaleureuse. On y prend du café en racontant des anecdotes de lecture et en échangeant des recommandations. Et c'est précisément ce mélange de convivialité et de conscience citoyenne qui fait la force de ce groupe. À travers ces échanges, les membres construisent une autre mémoire collective et un contre-récit aux discours officiels. Et si la bataille est loin d'être gagnée, elle se joue déjà ici, dans le coin d'une librairie miamienne. Exemple de livre banni. The Fire Next Time de James Baldwin, I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou, The ABCs of Black History de Rio Cortez, Sojourner Truth, A Life, A Symbol de Nell Irving Painter. C'était un club de lecture pour résister à la censure. Un texte d'Antoine Martin, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.